du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 30e dimanche. Les pharisiens, ayant entendu que Jésus a muselé les sadducéens, se liguent ensemble. L'un d'eux, un spécialiste de la Torah, l'interroge pour le mettre à l'épreuve.
Maître, quel est le plus grand précepte dans la Torah?
Celui-ci lui déclare.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta volonté, de tout ton être et de tout ton cœur. Ceci est le plus grand et le premier précepte. Un second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah tout entière, ainsi que les prophètes, dépend de ces deux préceptes. Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bonjour André.
Bonjour Georges. Nous sommes en présence de ce que beaucoup considèrent comme le résumé du message de Jésus. Aimer Dieu et le prochain. La réponse de Jésus nous semble tellement évidente qu'on ne comprend pas très bien où se trouve la mise à l'épreuve de Jésus.
C'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, il est peut-être surprenant de mettre sur le même pied amour de Dieu et amour du prochain. Alors nous poserons la question, que veut dire Jésus concrètement lorsqu'il affirme que le second précepte est semblable au premier? Mais rappelons la place de ce texte dans le récit de Matthieu. Nous sommes à Jérusalem, la mission de Jésus touche à sa fin, il a purifié le temple et ce geste a déclenché une coalition de ses adversaires. Ils veulent le prendre en défaut dans son enseignement afin de pouvoir l'arrêter et le condamner à mort. Ils doivent trouver un moyen de mettre Jésus en disgrâce auprès du peuple, ce peuple qui tient Jésus pour un prophète. Alors nous avons déjà assisté à deux tentatives pour perdre Jésus. La question de l'impôt dû à l'empereur de Rome, nous avons vu la semaine dernière, et celle de la résurrection des morts. Chaque fois, la réponse de Jésus a déjoué le piège qui lui était tendu. Relisons les versets 22 et 33 de Matthieu. Au chapitre 22.
À ces mots, ils furent tous surpris et ils s'en allèrent. Les foules qui avaient entendu étaient frappées de son enseignement.
À la suite de la question sur le plus grand précepte de la Torah, le récit de Matthieu ne fera pas de commentaire pour savoir si les adversaires ont été là encore surpris et s'ils se sont en allés. Par contre, le passage qui est parallèle dans Marc dit à la suite de cette controverse sur le premier précepte, personne n'osait plus l'interroger.
Maître, quel est le plus grand précepte de la Torah?
Eh bien, afin de bien saisir toute la portée de la réponse de Jésus, rappelons brièvement ce qu'est la Torah pour les Juifs. Essentiellement, elle est l'enseignement de Dieu à l'humanité. La foi d'Israël s'appuie sur la Torah comme la vérité à laquelle chaque juif doit sans cesse confronter sa vie. Cet enseignement de Dieu a été transmis par Moïse, mais chaque génération doit reprendre cette Torah pour la garder vivante. Et l'importance de la Torah est encore telle qu'aujourd'hui, des juifs qui sont des juifs de naissance mais qui sont devenus athées, eh bien suivent pourtant encore, avec beaucoup de fidélité, la Torah. Le mot Torah a été traduit en grec par les fameux 70, les 70, qui ont traduit la Bible au deuxième siècle avant Jésus. Ils ont traduit Torah par nomos en grec, qui veut dire loi. Et pourtant, il ne s'agit pas seulement de loi à suivre, mais la Torah est beaucoup plus largement un enseignement qui indique le chemin de la vie et du bonheur. On pourrait dire une règle de vie.
Oui, la parole de Dieu est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras. J'en prends un témoin aujourd'hui contre vous, le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous.
Les préceptes de la Torah doivent donc conduire le peuple et chaque juif à devenir des êtres libres. Et seul Dieu, parce qu'il n'est qu'amour, peut établir une relation avec chaque être humain sans jamais que ce soit un asservissement. Tous les autres dieux, que ce soit le dieu de l'argent, du sexe, du travail, du pouvoir, sont des dieux qui rendent esclaves. Les 10 grands préceptes de la Torah, ce que nous appelons les 10 commandements, le décalogue, sont des guides, mais des guides vers la liberté. Ils décrivent un mode de vie qui doit rendre libre et qui doit inviter à ne devenir esclave de personne et à ne mettre personne en esclavage.
Tu n'auras pas d'idole. Ne deviens esclave de rien ni de personne. Ne prends possession de personne, ni par le vol, ni par la violence, ni par la séduction.
Et cela est la conduite à tenir, bien sûr, envers les membres du peuple d'Israël, mais aussi envers les étrangers qui vivent au milieu du peuple.
Tu ne molesteras pas l'étranger, ni ne l'opprimeras, car vous avez vous-même résidé comme étranger dans le pays d'Égypte. Vous avez appris ce qu'éprouve l'étranger.
Oui, les prophètes rappelleront sans cesse qu'il est important de se souvenir des expériences, des moments de la vie où l'on a perdu la liberté, et cela afin de ne pas faire subir aux autres les mêmes épreuves de servitude. Constamment, l'Écriture insiste sur cet événement qui a été déterminant, l'événement de l'alliance conclue au désert du Sinaï.
Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, en ne gardant pas ses préceptes. Quand tu auras mangé et te seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit bétail, abonder ton argent et ton or, s'accroître tous tes biens, que tout cela ne rende pas ton cœur orgueilleux et que tu oublies alors le Seigneur ton Dieu.
L'alliance entre Dieu et Israël, entre Dieu et chaque être humain, chaque juif, chaque juive, est une alliance de communion et d'amour, et elle ne peut se vivre que dans la liberté. Garder vivante la mémoire de la Torah est le gage de cette liberté.
Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton souffle et de toute ta force. Que ces paroles que je te dis aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison, que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau.
La règle de l'Alliance reprend sans cesse le souvenir de cette libération pour indiquer l'attitude juste qui rend libre notre relation avec le prochain. Écoutons encore le texte du Lévitique au chapitre 19.
Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrême bout du champ. Tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis votre Dieu. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Dieu.
Oui, personne ne peut devenir un être libre s'il garde son prochain en esclavage. Et c'est pourquoi Dieu demande de porter une attention particulière à ceux qui ont perdu leurs droits et donc aussi perdu un peu leur liberté, à savoir le démuni, l'opprimé, la veuve, l'orphelin.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu.
À travers ce bref parcours, à travers les textes de la Bible, on a pu percevoir que les préceptes, qui concernent les relations humaines, sont plus nombreux que ceux qui concernent exclusivement Dieu. On pourrait sans doute dire que si Dieu demande envers lui cet amour total de tout ton cœur, de tout ton souffle, de toute ta force, c'est pour que son peuple puise en cet amour divin la force d'aimer son prochain. En effet, la solidarité entre les humains est toujours tellement fragile, elle se heurte aux égoïsmes de chacun, à la volonté de dominer. Bénir Dieu, sanctifier son prochain, lui rendre gloire, cela se concrétise en travaillant à faire advenir une société basée sur l'amour.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Alors qu'est-ce que cela signifie? Je ne suis pas sûr que l'on puisse comprendre cette formule, aimer comme toi-même ton prochain, comme si on voulait nous dire qu'il faut d'abord s'aimer soi pour ensuite aimer le prochain. C'est vrai d'ailleurs que qui ne s'aime pas ne saurait aimer le prochain, mais je crois que la formule va plus loin. Aimer son prochain comme soi-même, c'est le traiter à l'égal de soi. Et si la formule « de tout ton cœur, de tout ton souffle et de toute ta force » signifie un amour total, cela vaut sans doute aussi bien de l'amour du prochain que de l'amour de Dieu. En effet, le Lévitique limitait le prochain aux membres du peuple juif, mais Jésus, lui, va avoir une idée différente de qui est le prochain. De même que Dieu fait lever son soleil sur tous, qu'ils soient bons ou mauvais, de même qu'il fait pleuvoir sur tous, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens, de même, c'est tout être humain qui doit devenir notre prochain. L'amour dont parle Jésus ne peut être amour que s'il est sans frontières. La parabole du bon samaritain explique bien cette ouverture absolue.
Lequel s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui.
Oui, on le voit bien ici, il ne s'agit pas de définir le prochain comme quelqu'un qui nous est proche, proche par le sang, par la religion, par une communauté quelconque d'intérêt, mais le prochain se définit comme étant celui dont on se fait proche, celui envers qui on décide d'agir avec miséricorde. D'une certaine manière, on choisit qui est son prochain. Mais ce choix, d'ailleurs, doit être sans exclusion. Il faudrait peut-être dire plutôt, on choisit d'être proche.
Où se trouve le piège que les pharisiens tendent à Jésus?
Bien, souvenons-nous que la Torah comporte 613 préceptes. Tous sont-ils de même importance? Il y a 365 interdits et 248 prescriptions. Souvent, on les classe en préceptes légers et en préceptes graves. À l'époque de Jésus, certains rabbis enseignaient que les commandements légers devaient être aussi chers que les commandements graves.
De même que celui qui transgresse tous les commandements rejette le joug et rompt l'alliance, de même celui qui transgresse un seul commandement rejette le joug et rompt l'alliance.
Celui qui transgresse un seul commandement. Pour d'autres rabbis, le culte des idoles était le plus grave des péchés. Pour d'autres, c'est le précepte du sabbat qui pesait aussi lourd que tous les autres préceptes réunis. L'opinion courante était que les préceptes, parce qu'ils viennent tous de Dieu, sont donc tous égaux. Jésus était-il du même avis? Eh bien, il déclare en effet qu'il faut respecter le plus petit des préceptes. Mais alors, comment se fait-il qu'il semble si facilement transgresser la Torah? En effet, il guérit le jour du sabbat, ce qui était interdit. Il laisse un jour de sabbat ses disciples grappiller les épis de blé dans les champs qu'ils traversent. Il est peu scrupuleux sur les ablutions des mains avant les repas. Il semble très libre par rapport à des règles très précises. Il fréquente la table de pêcheurs publics comme les percepteurs d'impôts, les publicains. Il ne demande pas qu'on applique la loi, la Torah envers la femme adultère. « Moi, je ne te condamne pas, » dit Jésus. Il ne pratique pas le jeûne comme les pharisiens et les disciples de Jean. Il ne fait pas de zèle dans le versement de la dîme. Son attitude envers la Torah pouvait donc être suspecte aux yeux des scribes et des pharisiens qui, eux, étaient le plus souvent très scrupuleux sur l'observance littérale des préceptes. Et cependant, Jésus a affirmé qu'il n'était pas venu abolir la Torah, mais la porter à son accomplissement.
Celui qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, celui-là sera tenu pour le moindre dans le règne des cieux.
Alors voilà peut-être où se trouve le piège tendu à Jésus. Rendre évident que malgré son affirmation de fidélité, En fait, Jésus enseigne à transgresser des préceptes de la Torah et placer ainsi Jésus en contradiction avec lui-même. Alors, s'ils parviennent à établir cette contradiction, Jésus devrait perdre toute crédibilité aux yeux des foules.
Ceci est le plus grand et le premier précepte. Un second lui est semblable.
Oui, Jésus résume toute la Torah en deux préceptes qu'il dit semblables et inséparables. Aimer Dieu et aimer le prochain. Comment expliquer que Dieu et l'être humain soient mis sur le même pied? Dieu n'est-il pas le roi tout-puissant, le Père, le Créateur, l'Éternel, l'amour infini? Mais peut-être que nous avons du mal à mettre sur le même plan l'amour de Dieu et celui du prochain, en raison de notre façon de comprendre l'amour, en raison de notre manière d'aimer. En effet, notre amour est le plus souvent déterminé par celui que nous aimons, par celle que nous aimons. Nous aimons différemment, plus ou moins, les êtres, en fonction ou du degré de sympathie, ou d'admiration, ou de confiance que nous éprouvons pour eux. Mais lorsqu'il va s'agir d'un amour totalement gratuit, eh bien Dieu et aimer le prochain, c'est un seul et même mouvement. Et nous allons lire un texte un peu difficile, mais combien riche d'entrées compte Sponville, qui, bien qu'il se dise à Dieu athée, rejoint Jésus dans cette vision de l'amour.
Que le Christ ait existé ou pas, qui ne voit que le message évangélique excède de très loin les capacités de l'éros, l'amour passion, mais aussi de la philia, l'amour d'amitié. Aimer ce qui manque est à la portée de n'importe qui. Aimer ses amis, ceux qui ne manquent pas, ceux qui nous font du bien ou qui nous aiment, quoique plus difficile, reste accessible. Mais aimer ses ennemis, mais aimer les indifférents, mais aimer ceux qui ne nous manquent pas ni ne nous réjouissent. Mais aimer ceux qui nous encombrent, qui nous attristent ou qui nous font du mal, comment en serions-nous capables? Comment même pourrions-nous l'accepter? Scandale pour les Juifs, dira saint Paul, folie pour les Grecs, et en effet, cela excède la loi autant que le bon sens.
Pourtant, et quand bien même cela n'existerait qu'à titre d'idéal ou d'imagination, cet amour au-delà de l'amour, au-delà de l'éros, l'amour passion, au-delà de la philia, l'amour amitié, cet amour sublime et peut-être impossible mérite au moins un nom. Ce nom en français est ordinairement charité, mais le mot est tellement dévoyé, prostitué, sali, qu'il vaut mieux remonter à la source et continuer, après éros et philia, de parler grec. Cet amour qui n'est ni manque, ni puissance, ni passion, ni amitié, cet amour qui aime jusqu'aux ennemis, cet amour universel et désintéressé, c'est ce que le grec des Écritures appelle « agapé ». Si Dieu est amour, cet amour ne peut être un manque, puisque Dieu ne manque de rien. Il ne peut être amitié, puisque Dieu ne se réjouit pas d'un être qui le ferait exister davantage, mais qui l'engendre, mais qui le crée. Quand bien même sa joie ne saurait en être augmentée, ni sa perfection, mais bien plutôt blessée, crucifiée. Oui, c'est d'où il faut partir, de la création et de la croix, pour chercher Dieu, du tout, pour chercher l'amour. Agapé est l'amour divin. Oui, c'est cet amour de totale gratuité que l'on pourrait peut-être nommer la bonté généreuse. C'est de cet amour-là dont Jésus parle et dont il peut dire qu'il s'exerce de la même manière envers Dieu et envers le prochain. L'agapé nous fait aimer Dieu pour lui-même et non pas parce qu'on en espère des bienfaits en ce monde ou la vie éternelle. L'agapé nous fait aimer le prochain, tout être, quel qu'il soit, sans rien en exiger en retour. Celui qui ne sait pas aimer gratuitement son prochain est sans doute aussi incapable d'aimer gratuitement le Père divin, car l'amour agapé, l'amour gratuit, est un seul et même mouvement de l'être. Il ne peut se diviser, se dissocier. La première lettre de Jean a bien raison.
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Nous n'aimons pas Dieu en vérité, d'amour gratuit, si nous n'aimons pas le prochain d'amour gratuit. L'amour gratuit dont on aime le prochain est un test de vérité de l'amour que nous portons à Dieu. Un amour sur lequel nous pourrions en effet nous faire illusion puisque nous ne voyons pas Dieu. Il suffit aussi de refuser d'aimer un seul être pour détruire dans notre cœur la gratuité de l'amour, que ce soit envers Dieu ou envers les autres. Paul, dans sa lettre aux Romains, exprime aussi cet accomplissement de toute la Torah par l'amour vrai du prochain.
Celui qui aime son prochain a pleinement accompli la Torah. En effet, les préceptes « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, ne voleras pas, ne convoiteras pas », ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est le plein accomplissement de la Torah. »
Et au Galates, Paul enseignera de la même façon « Par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Déjà 20 ans avant Jésus, le rabbi Hillel enseignait à ses disciples cette règle qu'on a surnommée la règle d'or.
« Ce que tu ne voudrais pas qu'il t'arrive, ne le fais pas non plus à ton prochain. C'est là toute la Torah, le reste n'est qu'explication. »
Et on sait que Jésus a repris cette règle, mais dans une formule plus positive.
« Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. En effet, c'est la Torah et les prophètes. » La Torah tout entière, ainsi que les prophètes, dépendent de ces deux préceptes.
Voilà peut-être ce qui explique les contradictions apparentes de l'attitude de Jésus. Lorsqu'il affirme à la fois respecter l'intégrité de la Torah et en même temps qu'il relativise certains préceptes. Oui, tout précepte, même le plus petit, a sa place dans l'ensemble de la Torah, mais cette place ne se justifie que dans la mesure où ce précepte est vécu selon l'amour et l'amour gratuit. Tous les préceptes n'ont de consistance qu'en dépendance de cet amour gratuit. La Torah tout entière est sans contenu si on la vide de l'amour agapé. Jésus nous montre qu'aimer le Fils de Dieu malade, la fille de Dieu souffrante, cela commande de ne pas se laisser arrêter par la règle du repos sabbatique s'il faut enfreindre le sabbat pour apporter une guérison.
Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer? Or, combien plus l'être humain l'emporte sur la brebis? Est-il permis le jour du sabbat de sauver une vie ou de la perdre? Il est permis de faire le bien le jour du sabbat.
Les sacrifices du temple sont bons, car en fait ils veulent traduire notre relation avec Dieu, notre relation d'amour avec Dieu. Mais justement, ils n'ont plus de valeur lorsque la miséricorde a disparu dans le cœur de ceux qui offrent ces sacrifices. En rappelant le prophète Osée, Jésus n'a cessé de rappeler qu'aux yeux de Dieu, la miséricorde était plus importante que tous les sacrifices du temple. Payer la dîme est bon, car cela traduit notre reconnaissance envers Dieu, Dieu qui est la source de tous les biens de la création. Mais ce geste ne peut être vécu comme une action de grâce si le cœur de celui qui paye la dîme ne vit pas la gratuité de l'amour envers son prochain dans le besoin.
Malheureux êtes-vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil ou du cumin et qui négligez les points fondamentaux de la Torah. Respectez les droits des pauvres, être bon et être digne de confiance.
Lorsque l'amour agapé est ce qui inspire, ce qui purifie toute la vie, alors il ne saurait y avoir de conflit entre les divers préceptes de la Torah. Par exemple, entre le devoir de la prière et le devoir de visiter le frère emprisonné ou la sœur qui est malade. Il faut aller là où la gratuité de l'amour indique à chacun d'aller. Et à condition, bien sûr, que ce discernement ne se fasse sans phare ni leurre. La prière elle-même doit être purifiée et passée au crible de la gratuité. En effet, on peut prier par crainte. Prier parce qu'on craint Dieu ne saurait réjouir Dieu. On peut prier aussi par intérêt, mais alors reconnaissons que notre amour est encore bien imparfait. Même les gestes de bénévolat, les plus nobles en apparence, peuvent être eux aussi entachés d'amour-propre et de recherche de la gloire personnelle. Jésus a donc mis en garde ceux qui prient, font l'aumône et jeûnent, dans le but de se faire voir et non pas par amour. Oui, c'est à la lumière de ces deux préceptes, qui nous parlent d'amour gratuit envers Dieu et envers le prochain, qu'il faut juger toute la Torah et les prophètes.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
Pour Jésus, notre amour du prochain doit d'ailleurs imiter l'amour de Dieu. Une des preuves de la gratuité de l'amour, c'est la compassion, la miséricorde envers celui qui manque d'amour, qui en a été privé. C'est donc en aimant Dieu gratuitement que nous apprendrons à aimer le prochain en toute gratuité et vérité, avec respect, attention et amour. Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus à ses disciples. Ce serait là une directive un peu banale, même si elle est difficile, mais Jésus ajoute « Aimez-vous de la manière dont moi je vous aime ». Et c'est donc comme le Père a aimé qu'il faut que nous aimions. Si chaque disciple de Jésus vivait de cet amour, si chaque communauté en était le témoin rayonnant, alors les chrétiens vivraient vraiment la Torah tout entière, en apportant dans toutes les relations sociales cette dimension de gratuité qui seule peut sauver la justice. Terminons par une citation de René Abbachi dans son livre « Une philosophie ensoleillée ».
Ce n'est plus par la justice que s'établira le dialogue nord-sud et la coopération entre pays développés et insuffisamment développés, mais par le recours à une relation plus essentielle, celle d'une fraternité ontologique mettant les peuples en communication de base, où la sympathie relationnelle sera plus forte que les différences et la relation amoureuse encore plus profonde que la sympathie. Alors seulement, la symphonie univers s'achèvera en symphonie de la réconciliation, dont la clé est l'amour. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Ne téléphonez pas, s'il vous plaît, après 22 heures. Vous nous trouverez aussi sur Internet.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.